Alors ce matin, j'ai décidé de que je vous dirai pas bonjour en fait, mais je vous dirai salut à vous comme à mes invités. Salut qui vient de saluer, qui est une marque de respect, de reconnaissance, d'admiration et qu'on emploie autant lorsqu'on rencontre quelqu'un, vous avez remarqué, que lorsqu'on le quitte. Salut à toutes et à tous. Salut qui évoque aussi le fait d'être sauvé, d'échapper à un danger, à un malheur, à la mort. C'est une forme de civilité, vous conviendrez. Salut à toutes et à tous. Salut qui est enfin en théologie. Le fait d'être délivré du péché et d'échapper à la damnation. Salut à toutes et à tous, je vous offre la rédemption. Chaque fois que l'on salue quelqu'un, pour peu qu'on ait l'esprit très bien tourné, on pense à sa délivrance. Moi j'y pense en tout cas, d'autant que le salut est une notion qui traverse toutes les grandes religions. La possibilité du meilleur, le parti pris du bien. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant à mon avis, l'ouverture à l'autre. Et c'est là où le salut spirituel rejoint vraiment le salut civil. La grande et belle leçon des textes sacrés, c'est qu'on n'est jamais tout seul quand il s'agit d'être sauvé. C'est toujours une expérience collective, une expérience de médiation. On trouve le salut quand on parvient à sortir de sa petite vie, de son petit monde, de sa petite réalité. Le salut, ce serait l'ouverture à l'autre tous les jours, au bureau, comme dans la rue, dans la cuisine familiale ou dans le troquet du coin. Et à ceux qui se désespèrent qu'on n'en parle plus, comme ma mère, tiens, de rédemption ou de salut, je réponds qu'il faut tendre l'oreille. Il n'y a plus de bonjour aujourd'hui ou même d'au revoir, il y a beaucoup de salut. Salut, salut.
Boomerang, spécial Cannes.
J'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau.
France Inter, Augustin Trapenard.
Alors salut à tous et bienvenue dans Boomerang en direct du Festival de Cannes. Mes invités d'aujourd'hui nous parlent justement de salut, figure incontournable du festival. Deux fois récompensé par la Palme d'Or avec Rosetta et l'enfant. Leur nouveau film, Le jeune Ahmed, a été projeté hier en compétition et sortira demain au cinéma. C'est l'histoire d'un jeune garçon tiraillé entre la tyrannie d'idéaux radicaux et son envie de se laisser vivre. Bonjour Jean-Pierre et bonjour Luc Dardenne.
Salut Augustin.
Salut, salut.
Tout d'abord, ben justement, est-ce que vous y croyez, vous, au salut?
Ah, j'y crois, au salut entre les êtres humains, oui.
Luc.
Aux êtres humains qui se serrent la main pour s'aider, s'entraider. Ça, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire à la solidarité, à la fraternité.
Mais c'est une quête aussi, Jean-Pierre Dardenne, justement. Est-ce qu'elle joue un rôle dans votre cinéma, la quête du salut, la quête d'être sauvé, racheté, délivré?
Oui, ça, il faut aller voir Le jeune Ahmed, demain. Dès demain, et je pense qu'il y a des rapports avec tout ça. Oui.
Qu'est-ce qui nous sauve, en fin de compte?
Ce qui nous sauve, la fraternité.
Les autres?
Les autres, effectivement. C'est le rapport à un autre qui vous sauve. Et c'est ça qui était difficile pour le jeune Ahmed.
Vous voudriez dire qu'il y a certains personnages qui sont plus difficiles à sauver que d'autres?
Exactement, oui.
Certaines personnes aussi?
Oui.
Vous faites une différence entre personne et personnage?
Oui, non, oui, non, oui, non. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'intéresse plus aux personnages qu'aux personnes.
Alors si on prend l'exemple de ce jeune Ahmed, justement, Jean-Pierre et Luc Dardenne, le personnage principal de votre film qui embrasse une vision radicale et mortifère de l'islam, qui se met en tête d'ailleurs de tuer sa professeure sous prétexte qu'elle bafoue sa religion, de quoi est-ce qu'il doit être sauvé, lui?
Lui, sauvé de ce truc terrible qui est le fanatisme, qui justement, le fanatique pense, il fait le bien, le fanatique. Donc c'est pour ça que c'est un être... avec lequel il est difficile d'avoir des rapports. C'est ce que le film essaie de raconter aussi. C'est compliqué, un fanatique, parce qu'il a toujours l'impression qu'il fait tout pour votre bien et pour votre salut. Hein, voilà. Donc le mal pour lui n'existe pas. Et c'est des personnages difficiles à sauver.
C'est ça le danger, le danger du salut aussi. C'est quand on pense qu'on sait ce qu'il faut faire pour votre salut. Ça, c'est terrible, ces gens qui s'adressent à vous en sachant ce qu'il faut faire de vous.
Et vous, vous pensez que vous avez réussi à le sauver, ce jeune Ahmed?
Et on a essayé avec les moyens du cinéma de construire quelque chose, oui.
Ça, c'est passionnant quand même. Oui. Dans votre cinéma, comment est-ce qu'il est né, ce personnage du jeune Ahmed, Jean-Pierre et Luc Dardenne? Comment il s'est imposé à vous? Vous vous souvenez?
Oui. Bah, il s'est imposé à nous après avoir essayé de construire des histoires avec des personnages plus âgés. Et ça nous a semblé d'un romanesque inadéquat par rapport à ce que aux enjeux, il nous semble-t-il, que le film essayait de rencontrer, et par rapport à ce qui allait ou à tous ces massacres qu'il y avait eu, et nous semblait que le romanesque qu'on allait mettre en place pour sauver des personnages plus âgés, ça ne fonctionnait pas. Enfin, c'était d'une légèreté, voilà. insoutenable, obscène.
Et ce que je trouve passionnant, c'est que j'ai l'impression, à vous entendre, que c'est un personnage que vous n'avez pas vraiment réussi à cerner.
Exactement, c'est, il nous a échappé dès le départ. Comme disait Jean-Pierre, quand vous avez un personnage fanatique, c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à persuader, et ça sert à rien de lui parler, il sait tout, il est fermé à tout. Donc, c'est très difficile, effectivement, d'arriver à construire une intrigue où un personnage secondaire pourrait l'aider à devenir autre. Et donc, c'était ça tout l'enjeu du film.
Et ça, c'est une problématique d'adolescence aussi, j'ai l'impression, de cet entre-deux âges qu'est l'adolescence. Mine de rien, j'ai l'impression que vous nous racontez aussi quelque chose de l'adolescence. Ahmed a 13 ans, c'est plus vraiment un enfant, pas vraiment encore un adulte. 13 ans, quel âge est-ce que c'est pour vous, au fond? Comment est-ce que vous étiez, tiens, vous, à 13 ans, Jean-Pierre, par exemple?
À 13 ans? Je sais plus bien. Mais c'est vrai que c'est un moment où on perd certaines... certains rapports dans lesquels on a vécu, familiaux et tout ça, on quitte la famille, très simplement, moi, c'était, je quittais le village, quoi, pour aller à l'école à 10 kilomètres de là.
Seul?
Donc, oui, dans le train, je prenais le train, donc on quitte un monde pour aller dans un autre, hein.
Et vous, Luc, à 13 ans?
Moi, j'ai fumé.
Ah bah bravo, 20 sur 20.
Bah, je vous dis. Ouais. Et j'ai été passionné de mécanique, et j'ai construit un kart.
De quelle certitude est-ce que vous étiez pétri? Dans cet âge d'adolescence, les frères d'Ardenne.
À cet âge-là, moi, j'étais croyant. Voilà, croyant. On avait été élevé dans la religion chrétienne catholique. Et à 13 ans, je croyais quoi. Ouais.
Vous y avez pensé quand vous avez réalisé le jeune Ahmed, justement, à cette foi?
Mais c'est quelque chose qui nous est, enfin, qui je vais pas parler à la place de mon frère. Puisque même si on travaille ensemble.
C'est pas la même chose.
Ouais, voilà, mon frère, c'est pas la
même chose.
Alors
d'abord vous, Jean-Pierre Dardenne, ouais. Et puis Luc après.
Moi, j'ai, à 13 ans, oui, j'étais pas comme Ahmed, mais, je sais pas si j'aurais pu, parce que, je n'en sais rien, en fait, mais la foi était quelque chose qui faisait partie de ma vie, oui.
Et vous, Luc Dardenne? Moi, le fumeur?
Moi, à 11 ans, j'ai perdu la foi.
À 11 ans?
Voilà. Je ne croyais plus, oui.
En même temps, la foi, ça va de pair avec les doutes, non?
Oui, mais c'est-à-dire, quand on est enfant et qu'on croit et qu'on prie, tout ça a été parti.
Et pourquoi vous l'avez perdu, la foi?
Oh, pour des raisons que j'ai pas envie d'expliquer ici, mais en tous les cas, parce que j'ai perdu confiance en une série de choses. Et voilà. Et j'ai commencé à lire, à m'intéresser à d'autres choses et, je sais pas, je me suis éloigné, de cela.
Vous savez que dans cette émission, il y en a une qui n'a pas la foi. On n'a pas du tout la foi en elle. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas faute de prouver par A plus B qu'elle ne connaît rien à rien. La culture, évidemment, et son actualité qui prend trop souvent des vessies pour des lanternes. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 21 mai? And the boss is back. Après 7 ans d'absence, Bruce Springsteen s'apprête à faire son grand retour en solo avec l'album Western Stars, annoncé pour le 14 juin prochain. Pour nous faire patienter, le rocker de 69 ans a révélé hier un nouvel extrait du projet avec la chanson There Goes My Miracle. Une balade qui fleure bon la pop sud-californienne des années 60-70 sur laquelle on retrouve la grosse voix de Springsteen sublimée par des arrangements denses et rétro. Que c'est beau! Le dernier voyage de Lindqvist, l'écrivain suédois Sven Lindqvist, vient de mourir à Stockholm. Il avait 87 ans, grand voyageur, devenu l'une des voix les plus importantes de la littérature scandinave. Il laisse une trentaine d'essais qui mêlent enquête historique, journalisme, récits de voyage, inspectant le contemporain à la lumière du passé. Il avait notamment publié en 1992 « Exterminer toutes ces brutes », texte de référence sur l'héritage de la violence des empires coloniaux européens dans nos sociétés modernes. Aznavour, un peu, beaucoup et pour toujours, aujourd'hui à l'occasion du 95e anniversaire de la naissance de l'icône disparue en octobre dernier, la ville de Paris s'associe à la fondation Aznavour pour organiser une grande journée d'hommage en musique. À 11h, une plaque célébrant la mémoire du chanteur sera dévoilée par Anne Hidalgo, 36 rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement de Paris où il a grandi. Et puis à 17h, un concert sera donné sur le parvis de l'hôtel de ville où seront notamment interprétés La Bohème et cet Emmenez-moi par la chorale des agents de la ville, cœur avec les doigts.
Je vous ai réservé une chambre Martinez. Vous connaissez le Martinez, Simon?
Non.
Vous y serez très bien. Je vous veux comme un coq en pâte ici. Monsieur Karmazov, il va falloir emmener Simon partout. Hein. Il va être très sollicité, vous savez. C'est l'effet calme.
Bah, c'est l'effet Cannes, mais c'est l'effet Tarantino surtout, parce qu'aujourd'hui, 25 ans après son sacre cannois de Pulp Fiction, l'Américain montre son très attendu Once Upon a Time in Hollywood, porté par la Dream Team DiCaprio, Pete Pacino. Dans le même temps, le cinéaste coréen Bong Joon-ho entrera dans la course à la palme avec son formidable Parasite, impressionnant sur tous les plans. Mais notre événement cannois à nous, bah, c'est aussi la projection à 15h des courts-métrages Talent Adami, premier passage derrière la caméra pour Suzanne Clément, Mélanie Doutet, Guillaume Guix, Zita Enro et Grégory Montel, sous le regard bienveillant de leur marraine de cinéma Agnès Jaoui. On dit oui. Et les frères Dardenne, invités de Boomerang ce matin à Cannes. Pour le jeune Ahmed, on en parlait, projeté hier. C'est la 8e fois, je crois, que vous briguez la Palme d'Or. Quelle émotion est-ce que c'est une projection, tiens, dans le grand théâtre Lumière du Palais des Festivals, pour vous, Jean-Pierre et Luc Dardenne?
Et j'ai remarqué que ça avait changé en fonction des années. Parce que je ne vois plus très net. Et je n'avais pas pris mes lunettes pour voir de loin. Et mais c'est pas mal non plus. J'ai vu le film un peu flou et vu la tension que
Jean-Pierre, c'est quand même un peu problématique de ne plus voir quand on est réalisateur, non?
La projection. J'ai l'ai vu un peu flou. J'avais pas pris mes lunettes.
Voici, on en est au coming out. Luc Dardenne, est-ce que vous pouvez nous parler de l'émotion dans le Palais des Festivals?
J'essaie de ne penser qu'une chose, au sous-titrage anglais. Je fais des leçons d'anglais pendant la projection et je me dis, ah oui, bien traduit. Ah oui, c'est vrai.
Parce que vous l'avez vu tellement de fois, vous l'avez monté pendant si longtemps que vous le connaissez par cœur, somme toute.
Oui. Quasi.
Quel lieu est-ce que c'est pour vous, les frères Dardenne, une salle de cinéma? Tiens, qu'est-ce que ça représente?
Ah, ça, pour moi, c'est le plus beau lieu. J'aime y aller, seul, avec d'autres spectateurs, peu importe. Mais j'aime beaucoup aller dans ces salles.
Si ça se trouve, c'est un lieu de salut, non?
J'allais le dire.
Oui, hein. C'est pour ça que... ça a à voir avec tout ça, hein, oui.
De quoi le cinéma vous a sauvé, tiens, tous les deux? Ah bah, Luc Dardenne, on sait déjà, de la fumette, on l'a compris. Ouais. Mais Jean-Pierre, peut-être.
C'est le cinéma, c'est les rencontres dans la vie, c'est la rencontre avec Armand Gatti. C'est à travers lui qu'on vient quand même vers le cinéma. Bon, et en gros, je me dis, voilà, avec Luc, on a fait une série de films et tout. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas rencontré Gatti, si j'avais pas travaillé avec mon frère? Sans doute pas grand-chose.
Et vous, Luc Dardenne?
Une certaine solitude, ça c'est sûr. C'est bien qu'on soit retrouvés tous les deux. Et c'était un peu notre, justement, je dirais notre maison commune. Notre nouvelle maison commune à mon frère et à moi-même pour, voilà. Et on vit dedans depuis 50 ans.
C'est intéressant quand même le vocabulaire que vous utilisez, parce que tous les ans, effectivement, on assiste au même cérémonial, au même rituel, comme s'il s'agissait d'une sorte de messe. Une messe célébrée chaque année ici, à Cannes, avec Jean-Pierre et Luc Dardenne depuis une vingtaine d'années. Cannes, sans les Dardenne, c'est plus vraiment qu'un nom.
Rosateur de Luc et Jean-Pierre Dardenne.
Une palme d'or inattendue s'il en est, la première en tout cas pour la Belgique. Loin des strass et des paillettes, le jury du 52e festival a couronné un film âpre, un drame social proche du documentaire.
Je vais essayer d'être aussi simple que le film qu'on a essayé de faire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir aimé Rosetta.
Rosetta qui vaut également à sa comédienne Émilie Dequesne le prix d'interprétation féminine.
Pourquoi vous avez dit qu'elle l'avait dit?
Peu importe, ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez été remerciée.
Je fais bien mon travail ou pas?
Oui.
Alors pourquoi est-ce que vous voulez que je parte?
Allez vous changer, revenez dans mon bureau.
Non.
La fin du festival de Cannes avec depuis près d'une heure maintenant le palmarès.
Ils rejoignent le club très fermé des doubles palmes d'or, les frères Dardenne, Luc et Jean-Pierre, venus de Belgique et du documentaire, ont bouleversé la croisette avec l'enfant.
Merci au jury d'avoir aimé notre film. Merci beaucoup.
Et d'une, et de deux, et de trois pour les frères Dardenne. Et cette fois-ci, ce n'est pas une palme, mais le prix du meilleur scénario qu'ils ont obtenu pour leur film, Le silence de Lorna.
Le
grand prix sera décerné à deux films ex-aequo.
Avec Le gamin au vélo, c'est la troisième fois que les frères Dardenne sont récompensés à Cannes. Leur film traite de l'enfance maltraitée.
Donne ton vélo.
Non, je rentre tout seul.
Tu viens avec moi.
Papa!
Et je vous vois ému quand même, Jean-Pierre et Luc Dardenne. Ça fait plus de 30 ans que vous faites du cinéma tous les deux. Quel sens est-ce que ça a de faire un film ensemble aujourd'hui? Pour vous deux.
C'est notre vie.
C'est déjà pas mal, non?
Oui. C'est déjà pas mal.
Comme réponse. Dans quelle mesure, à votre avis, le cinéma a-t-il le pouvoir de nous rendre meilleurs? Je sais que c'est une question qui n'en finit pas de vous travailler, tous les deux.
Oui, le cinéma est... Et l'art, en général, l'art, c'est, ça permet de remettre, j'aime pas beaucoup ce mot, mais quand même de remettre une espèce de d'ordre provisoire au réel, ce qu'on appelle le réel, et de l'éclairer et sans doute de mieux le voir. C'est ça l'art.
Et si on parle de vous, par exemple, quel ordre est-ce que vous avez retrouvé grâce au cinéma? En quoi est-ce que faire des films vous a rendu meilleur, tout simplement, Jean-Pierre et Luc Dardenne?
Je ne sais pas si ça nous a rendu meilleur, mais en tous les cas, parce que c'est difficile de dire ça de soi-même, vaut mieux ne rien dire. Mais en tous les cas, c'est certain que quand on fait un film, on pense quand même à ce que le spectateur... Moi, je dis toujours, on fait des films pour aimer le spectateur.
Oui.
Qu'il aime le film ou pas, c'est autre chose, ça je peux pas le dire. Mais en tous les cas, aimer le spectateur lui permet de découvrir qu'il est aussi autre chose que ce qu'il croit qu'il est. Et que peut-être, bon, si je peux dire, qu'il peut être augmenté, qu'il peut être meilleur dans le sens découvrir des possibilités qui s'est endormi ou qui n'existait pas encore chez lui et que le film peut lui révéler. Et dont il peut parler après avec d'autres ou avec lui-même dans le silence.
C'est passionnant, ça voudrait dire que la morale a un rôle à jouer dans le cinéma chez vous.
La morale pas au sens où on accuse quelqu'un d'être pas bien ou bien, hein, la morale au sens oui, où les émotions sont aussi morales.
Donc faut-il le toucher le spectateur? Qu'est-ce qui vous touche, vous, en tant que spectateur justement, quand vous allez voir un film? Jean-Pierre, Luc Dardenne.
Moi j'aime bien les films qui... Je ne dirais pas qu'ils ressemblent au nôtre, mais... Mais quand même un peu, voilà.
C'est-à-dire en quoi? Quel film qui ressemble à quelle dimension de votre cinéma?
J'aime bien les films qui me donnent accès à l'intériorité des personnages. Mmh. Voilà.
Il faut ça pour être touché. Et si je vous pose cette question, c'est parce que précisément le jeune Ahmed, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'accepte pas de se laisser atteindre, qui refuse, au sens propre comme au figuré, d'être touché. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de l'une de vos premières scènes où il ne veut pas serrer la main de sa professeure sous prétexte qu'elle est une femme.
Ouais.
Non?
Ouais. Et qui, c'est ça toute la question du film. C'est le rapport du corps d'Ahmed avec les autres corps et avec certains objets. C'est comme ça qu'on a construit le film, parce que la religion, c'est un dressage des corps. Voilà. Et un dressage dans le sens où bon, il y a tous les rites, mais il y a aussi toutes les interdictions. Et le corps d'Ahmed, qui est occupé par à la fois son cousin martyr mort et par l'imam, la parole de l'imam radical, devient un corps qui connaît beaucoup d'interdits.
On en revient à ce que l'on disait, dites-moi.
Sauf l'interdit de tuer, malheureusement, c'est ça qui est terrible.
L'importance de l'autre, le fait que sans l'autre, il n'y a pas de salut possible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quel autre est-ce que c'est, votre frère, pour vous, Luc? Tiens, quel autre est-ce que Jean-Pierre est?
Il est celui avec qui je fais les films, celui qui m'aide, celui que j'aide. On est tout le temps dans ce rapport-là. Et...
Celui qui vous touche aussi?
Oui, bien sûr.
Par l'émotion, évidemment.
Oui, bien d'accord. Sûr. Oui.
Et pour vous, Jean-Pierre, quel autre est-ce que c'est, Luc?
La même chose, en général. Non, mais c'est vrai, c'est je ne dirais pas c'est l'autre moi, c'est pas vrai, c'est pas ça. Mais oui, c'est l'autre sans lequel, en tout cas, une grande partie de ma vie n'existe pas.
Alors on va reparler ensemble d'autres, de rédemption, de cinéma et puis d'images aussi. Juste après Johnny Cash, tiens, qui reprenait si bien Bob Marley. Redemption Song, puisqu'on parle de rédemption, vous êtes sur France Inter avec les frères Dardenne. Vous écoutez Boomerang à Cannes.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs.
All I ever had,
redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Boomerang à Cannes.
C'est fini les photographes, terminé.
Augustin Trapenard sur France Inter.
Et le problème pour le journaliste que je suis, c'est qu'évidemment ils se ressemblent énormément, donc on ne sait jamais comment appeler l'un, comment appeler l'autre. Ils auraient pu jouer dans le remake des Demoiselles de Rochefort. En fait, ce sont eux, les frères jumeaux, les dames oiseaux, nés sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol ré do. Les yeux du même bleu clair, le cheveu du même gris blanc, le même sourire doux, presque timide, parfois ô combien généreux. Ils ont mis tous les deux une veste, on dirait que c'est un chandail, comme disait ma grand-mère. Jean-Pierre et Luc Dardenne, invités de Boomerang à Cannes ce matin pour leur 11e long métrage, Le jeune Ahmed, en lice pour la Palme d'Or et en salle demain. C'est un film dans lequel, on l'a compris, il est beaucoup question quand même de religion. Ça vous pose question, la religion, à vous deux, encore ?
Oui.
On a essayé de prendre la religion au sérieux dans le film, voilà, vraiment. C'est quoi la religion ? C'est quoi être endoctriné religieusement ? C'est quelque chose qui pour nous, signifie beaucoup de choses. Et c'est vrai que il y a évidemment des causes sociales, économiques qui peuvent jouer un rôle dans le fait qu'un jeune garçon ou une jeune fille se radicalise. Mais nous, on a essayé de voir ça d'un point de vue vraiment religieux, de voir comment cet imaginaire avait sa propre efficacité.
Et l'affaire, c'est que comme on vit dans des sociétés qui où la séparation de la religion, de la vie publique, enfin tout ça est depuis quelques dizaines d'années quand même plus. Il y a des espaces. On a un peu oublié, je pense, la force de la religion. On sait plus ce que c'est. Et là, on est surpris.
Mais quelles précautions est-ce qu'on prend ? Je me suis demandé, lorsqu'on s'intéresse à une religion sur laquelle on ne peut avoir qu'un point de vue extérieur, là, en l'occurrence, l'islam.
On s'informe, on parle beaucoup avec des gens religieux, des musulmans, on s'immerge et on essaye de comprendre comment ça fonctionne, mais elles fonctionnent un peu toutes de la même façon, les religions, par rapport au salut, par exemple. Mmh. Mais c'est vrai que quand ça se radicalise, quand le discours religieux devient absolu, nous, on s'est renseigné beaucoup sur les rites aussi, parce que tout ça est lié au corps. Hein.
Vous en avez parlé, Jean-Pierre Dardenne. Évidemment, vous avez grandi dans une famille où la religion catholique prenait beaucoup de place. Aujourd'hui, quelle place la religion a dans votre vie, à tous les deux ? C'est un questionnement permanent ? Ce sont des doutes permanents ?
Ouais. faut jamais être définitif. Non, moi je pense que, enfin de mon côté, je sais pas si on en a jamais fini avec tout ça, surtout quand on a, y a rien à faire. Enfin, c'est un peu ce que, c'est pas le film, mais c'est quand l'enfance était bercée par tout ça, on peut pas.
On est toujours l'héritier.
On est toujours l'héritier de quelque chose, qu'on a toujours des rapports avec ça.
C'est terrible ce que vous dites. Hein?
Non, mais c'est bien, ça fait partie de notre vie, en tout cas de la mienne.
Alors qu'est-ce que ça voudrait dire avoir la foi? Ça voudrait dire composer avec un passé spirituel, une éducation, une famille, un monde?
Je ne sais pas. Enfin, moi, je n'ai ce qu'on appelle la foi, je ne sais pas ce que c'est. Mais je peux dire quand même que par rapport à l'éducation qu'on reçoit étant enfant, c'est certain que on ne peut pas s'en séparer violemment, parce que c'est là qu'on s'en sépare le moins. Je pense que c'est un dialogue permanent, un dialogue intérieur que l'on a avec son enfance qui fait qu'à un moment donné, on se dégage. Mais ça prend du temps.
En quoi ça a marqué, à votre avis, en quoi ça a façonné les hommes que vous êtes devenus aujourd'hui, et les cinéastes aussi, Jean-Pierre, Luc Dardenne?
C'est difficile de dire ça pour... Moi, je dis...
je laisserai un silence, moi.
C'est compliqué, oui, c'est ça, c'est compliqué, parce que, le rapport aux autres, mais c'est pas seulement, enfin, nous, c'est à travers la religion, quoi. Enfin, notre éducation religieuse, qui est relativement ouverte quand même, que...
Oui, ouverte et en même temps très fermée.
Et en même temps très fermée, oui, c'est vrai.
C'est ça, la religion, c'est terrible.
Vrai, c'est
deux, quoi. Il faut s'en libérer, quand
c'est
même.
Le dernier, oui.
Beaucoup de gens qui sont morts pour se libérer de la religion.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le comprend aussi
dans votre
film.
Ça.
La religion ne va pas sans un certain nombre d'interdits. Qu'est-ce qui, chez les Dardenne, était interdit, justement? Qu'est-ce qui pouvait relever de la transgression?
énormément de choses vous étaient interdites.
Là, il veut tout savoir.
Bah, attendez, vous êtes en boomerang.
Non, tout ce qui était lié à la sexualité nous était interdit. Voilà. Par exemple, la honte sur la sexualité, ça c'était terrible.
Et regarder des films, c'était interdit, ça?
Aussi.
Et toi, ouais.
Ah, c'est vrai?
Ouais, ouais, les images, l'érotisme, oui. Toutes ces choses-là étaient interdites.
Et quels étaient les films qui étaient considérés comme transgressifs? Vous avez des titres?
Tout est.
Tout?
Ouais. Presque tout.
Sauf les dessins animés, il y a encore certains.
C'est une époque où l'Église catholique avait des relais dans la société civile, à travers des revues de cinéma, qui par ailleurs avaient j'en ai revu quelques numéros, qui disaient des choses très intéressantes, mais qui avaient à l'intérieur de leur revue un espèce de catalogue des films classifiés. Et j'ai revu, tu vois les films auxquels les enfants avaient accès, à la limite, Bambi, c'était difficile, quoi. Tout était interdit.
Dites-moi, c'est drôlement ironique, hein, quand
oui,
même.
Oui, hein, oui.
D'avoir été dans le blasphème pendant si longtemps. En fait, il est là le salut chez vous.
Yes.
Essayer de rattraper l'interdit.
C'est pour ça qu'on fait des films.
Quelles sont les premières personnes que vous ayez filmées, tous les deux?
Les premières personnes qu'on a filmées, ce sont des résistants. Qu'on a filmé, enfin, pour faire notre premier documentaire, ce sont des résistants anti-nazis de notre région.
Pourquoi vous les aviez choisis, eux?
Parce qu'on a eu ce projet, quand on a terminé de travailler avec Armand Gatti, en Belgique, on a eu ce projet de raconter toute l'histoire de la résistance et du mouvement ouvrier dans notre région. On pensait que rien n'existait. Il existait des choses, mais quand on commence, on pense qu'on est le premier à le faire, et on a eu tort de le penser, mais enfin, c'est grâce à ça qu'on a pu faire ce qu'on a fait.
Et déjà, vous les filmiez de très près, comme vous le faites avec le personnage d'Ahmed?
On enregistrait de la parole, on faisait de la radio filmée. On enregistrait des paroles.
Alors qu'est-ce qu'ils
étaient assis, et il y avait ça, et des objets. On leur faisait retrouver et montrer à la caméra des objets qui incarnait leur résistance.
Alors qu'est-ce qui se joue aujourd'hui, les frères Dardenne, dans cette façon qu'a la caméra de s'approcher au plus près du visage de l'autre?
C'est... Allez, on essaie de manière obstinément d'essayer d'entrer dans la tête du personnage. Hein.
Qu'est-ce que c'est au fond, une image de cinéma?
Je dirais que c'est un peu contre un certain cinéma que je pense qu'on a commencé à faire ça, parce que moi, il y a beaucoup de films qui m'ennuient. Beaucoup de films où je vois la composition de l'image, où je vois la composition des mouvements, où je vois la mise en scène très construite. Et ça, je ne supporte pas.
Alors, en s'approchant comme ça au plus près.
Il me semble, j'ai l'impression que dans ces films-là, les corps disparaissent.
Ah.
Et que ce qu'on essaye de faire, je ne dis pas que c'est mieux, c'est pas une question d'être mieux ou moins bien, mais on essaye qu'il y ait une chaleur de les faire vivre en étant près d'eux, d'être dans leur respiration, vous voyez, c'est ça que moi je suis heureux quand je me dis tiens là le plan on a l'impression que le corps palpite dans l'image, palpite
et que le personnage est présent quoi, qu'il est vraiment là, vous voyez, qu'il a le poids de sa présence est là.
Merci, en tout cas, à tous les deux d'avoir été présents. Merci pour cet entretien absolument passionnant, Jean-Pierre et Luc Dardenne, d'être venus faire un tour dans cette émission. Je rappelle que le jeune Ahmed, avec la révélation, hein, Idir Ben Hadi, 13 ans, mais aussi Olivier Bonneau, Myriam Akeydiou, Victoria Blouk sort demain au cinéma, qu'il est en lice pour la Palme d'Or. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Elle est partie. C'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie. C'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête, elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. Oh, c'est choquant. Oh, c'est choquant. La vérité nue, la vie crue, les nuits. Le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh. Le ciel a changé, il a changé.
Bertrand Belin, Nuit Bleue sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers. L'instant M, Sonia.